Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up spécial Elimination Chamber. Je suis ringside, je suis en retard. Et avec moi, l'incroyable Hank. Comment vas-tu, Hank?
Ça va, c'était un peu l'épreuve aujourd'hui pour démarrer ce stream, c'était un peu la catastrophe. On vous racontera tout si vous voulez les détails.
Dans un catch-up spécial, les problèmes
Voilà.
du 27 février.
Et on va essayer de se changer les idées. Allez,
Voilà,
allez,
hein,
on
on
est
est tous les deux
parti.
très énervés, mais on va quand même vous faire le débrief
Oui,
dans le
voilà.
détail de ce pay-per-view de la WWE qui avait lieu dimanche soir. Donc on était quelque chose comme le 26 ou le 25 plutôt. On était à Las Vegas dans le Nevada, l'Elimination Chamber. Le kick-off désastreux, le kick-off avec un match Luke Gallows, Karl Anderson contre le Mistourage. Victoire du club sur Magic Killer dans un match assez anecdotique. Belle performance de Luke Gallows. Je pense pas que tu as vu le kick-off, toi, Hank. Non, voilà. Moi,
J'ai pas regardé, désolé.
c'était aussi catastrophique que notre début de show. Des interviews ratées.
Y a pas eu cette histoire de tirage de cheveux, ou alors là je confonds.
Il y a eu un tirage de cheveux, effectivement, de Bo Dallas ou de Curtis Axel sur Karl Anderson. Mais évidemment, Karl Anderson n'a pas de cheveux, donc c'était une bien
Ok.
étrange séquence. Le Revival est venu faire une petite promotion backstage en vignette comme ça pour dire qu'ils ne reconnaissaient pas leur catch face à ce match-là entre Luke Gallows, Karl Anderson et le Mistourage, mais c'était tellement nul leur promo qu'ils les ont coupés avant la fin.
D'accord.
On a eu Paige qui est venu, ça c'était plutôt pas mal. Kurt Angle qui est venu nous spoiler un petit peu la route vers Mania, hein, puisqu'on lui demande des nouvelles de Jason Jordan, il nous explique qu'il est out juste après WrestleMania. Donc en gros, il reviendra pour l'Euro du lendemain. Et on lui demande s'il pense que c'est la dernière chance de John Cena ce soir pour arriver à Mania. Il dit non, non, John Cena, même s'il perd, là, s'il se reprend, il n'y a pas de souci. Donc il désamorce un peu le truc. Voilà, donc ça c'était le pré-show. Il y a Paul Heyman aussi qui est venu faire une promo, mais il a été coupé par la musique de la chambre qui descendait. Donc ça n'a rien donné non plus.
Ok.
Début du show, les filles, l'Elimination Chamber féminin, le premier match dans la chambre d'élimination pour les filles. Alexa Bliss affronte Sonya Deville, Mandy Rose, Bayley, Sasha Banks et Mickie James. Alors ça démarre avec Bayley qui affronte Sonya Deville. Ensuite, c'est Mandy Rose qui se joint à la fête. Donc là, Bayley, elle est un petit peu submergée, hein, même si elle arrive bien à se défendre au début. Les deux de l'Absolution prennent le dessus, hein, parce que c'est le clan Absolution, Sonya Deville et Mandy Rose. Là-dessus, Sasha Banks débarque et alors là, elle va victimiser tout le monde, hein. Elle va faire le ménage. On prend le dessus sur tout le monde. Je crois que Mandy Rose se fait alors éliminer par le Backstabber Backstabment. Elle perd. Ensuite, c'est Mickie James qui rentre, qui fait le ménage. Elle va monter en haut du pod et faire une descente sur Sonya Deville.
Et avoir un splash.
Voilà, les doubles genoux là. Sonya Deville est éliminée. Mickie James ensuite se fait piéger par le Bankstabber enchaîné sur un belly to belly, elle est éliminée, hein, peu de temps après avoir éliminé Sonya Deville. Et donc il reste plus que Sasha Banks et Bayley qui vont attendre patiemment que Alexa Bliss, la championne, sorte de sa cellule.
Yep.
Alors, on va se courir après, ça va grimper aux grilles. Hein. Alexa Bliss est pas très très chaude pour affronter Bayley et Sasha Banks réunis. Là-dessus, on va réussir à monter en haut de la cellule. Sasha Banks prend le dessus sur Alexa Bliss. Elle va faire mine d'aider Bayley à monter en haut du pod. Et là, elle va, à la surprise générale, placer un méchant coup de pied à Bayley qui va s'écraser au sol. Trahison de Sasha Banks. Le combat continue. Ça se... Alors, du coup, il n'y a plus du tout d'alliance entre Bailey et Sacha. Hein. Ça se fout méchamment sur la gueule aussi entre les deux. Alexa Bliss va en profiter pour piéger Bailey dans un espèce de petit paquet modifié. Pour le compte de 3, Bailey est éliminé. Là-dessus, on part encore sur un affrontement Sacha, Alexa Bliss. Alexa Bliss qui va monter encore une fois en haut du pod, qui va se lancer dans un Twisted Bliss. Elle atterrit sur Banks. Banks qui la reprend dans le back statement. Elle arrive à contrer directement avec l'élan. Mais on est à l'extérieur du ring, donc il n'y a pas d'abandon possible. On va retourner à l'intérieur du ring. Sacha Banks va monter sur le coin du ring pour essayer d'escalader le pod et tenter un dive. Mais Alexa Bliss la fait trébucher. Sacha se mange la cellule et ensuite elle est piégée dans un DDT depuis la troisième corde, un peu à la manière de Andrade Cien Almas. DDT létal. Sacha Banks ne se relèvera pas. C'est le compte de 3 victoires d'Alexa Bliss qui conserve son titre et qui fait ensuite une promo où elle remercie tout le monde. Elle explique que c'est la victoire d'une petite fille qui croyait en ses rêves, mais qui se retourne tout de suite et nous dit: Mais de toute façon, vous ne pourrez jamais accomplir vos rêves. Bande de nuls. Le public est tombé dans le panneau. Hein, ils chantaient you deserve it, tu le mérites, avant de se faire clouer le bec. Voilà, Alexa Bliss repart grand gagnante de cette Elimination Chamber. Qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement homérique, j'ai envie de dire?
J'ai beaucoup aimé ce match. Alors, bon, il y a plein de reproches que... Bizarrement, en fait, tous les reproches qu'on peut faire à ce match-là, je m'en suis rendu compte qu'en écoutant, bah, en parlant avec toi sur Skype, en regardant des podcasts bah, de ces dernières 48 heures, où je comprends les gens qui étaient... voilà, plus réservé sur le match. Moi, dans le moment présent, quand j'ai regardé le match, j'ai trouvé que le match était passionnant de bout en bout. J'ai trouvé que c'était bien emboîté, que tout était. Après, peut-être que c'était aussi parce que c'est. Ils ont fait à peu près ce que j'attendais, sauf la fin, sauf la toute fin. Mais sinon, c'était à peu près ce que j'attendais, quoi, le match. C'était Bayley contre une des filles d'Absolution, ensuite la deuxième fille d'Absolution contre Bayley. Montrer Bayley forte, quand même, au bout d'un moment, elle se fait. Enfin, les filles d'Absolution prennent le dessus. Ensuite, on a Sasha Banks qui vient, entre guillemets, la sauver. Mais on sent quand même que voilà, Sasha Banks, elle pense qu'à sa poire. Hein, et puis Corey Graves qui vend ça depuis des semaines. Ensuite, Mickie James qui m'a surprise, elle était excellente hein, dans les 2 minutes qu'elle a
Ouais,
eu, elle
impeccable,
était
Mickie James.
pleine d'énergie quoi. Et puis c'est super important d'avoir des gens dans une Elimination Chamber qui arrivent et qui sont voilà qui redonnent de l'élan au match quoi, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis un quart d'heure, donc voilà. Voilà, Mickie James parfaite. Il y en a qui ont reproché le fait que du coup, bah, on nous a fait une histoire entre Mickie James et Alexa Bliss qui servait à rien. Bon, je m'en fous. À la limite, je m'en foutais un petit peu avant et je m'en foutais là aussi. Donc du coup, c'est pas, ça nous a rajouté un petit bout d'histoire. Il y a ce passage que j'ai beaucoup aimé où Mickie James finissait un peu son combo magique à la sortie de sa cellule et elle se retrouve devant la cellule d'Alexa Bliss. Et Alexa Bliss, il fait. Genre un truc genre ouais trop bien et juste à ce moment-là je crois qu'elle se fait attaquer par derrière, enfin Mickie James se fait attaquer par derrière, donc voilà, il y avait des petites séquences marrantes comme ça. Il y en a aussi qui ont reproché énormément le manque de préparation du sale coup de Sasha Banks, que c'était un peu gratuit. Moi je m'en non, parce que c'est la logique du match quoi, au bout d'un moment quand il reste que 3 personnes, forcément que tu vas faire un sale coup à ton pote. Après, est-ce que c'était intelligent, oui ou non? J'aime pas, il y a des moments, OK, il faut pas qu'on nous montre les catcheurs comme stupides, mais il y a des moments où vous êtes dans votre fauteuil comme ça en train de réfléchir tout, en train de penser à tout dans les moindres détails. Moi j'ai trouvé que c'était un vraiment bon moment quoi, Sasha Banks qui fout un sale coup à Bayley. Ensuite donc du coup Banks qui gagne pas. Si là on n'est pas dans la rivalité Banks Bayley d'ici 2 semaines, je comprends rien. Là, ça, on marche.
Ah oui, on espère quand même qu'il y a le payoff derrière d'avoir le match entre les deux. Ça, c'est sûr.
Donc voilà, Alexa Bliss, c'est, après, elle a pas fait beaucoup de matchs, donc c'est un peu con de dire c'est son meilleur match depuis.
meilleur match depuis octobre.
Voilà, les 10 minutes qu'elle a eues dans ce match, elle était excellente aussi. Je trouve que tout le monde a été vraiment bon. Il y a des choses, il y a des approximations, surtout au début du match. Il y a des moments où oui, c'est pas clean. Il y a pas eu de trucs qui m'ont gêné visuellement. Enfin, il y a pas eu de moment où j'ai fait aïe. Contrairement à, par contre, il y a un spot du côté des mecs, tu vois, avec Roman Reigns qui là pour le coup était un peu dégueulasse. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais donc voilà, je franchement, il n'y a rien qui m'a choqué techniquement. Et j'ai trouvé le match vraiment passionnant de bout en bout. Ils auraient pu faire gagner Sasha Banks à la fin. Donc, du coup, ça m'a laissé un petit peu de suspense aussi. Très bien. Vraiment, c'est pas un match qui rentrera techniquement dans l'histoire. Mais pour un premier match d'élimination des filles, j'ai trouvé qu'elles étaient quand même au niveau.
Au niveau. D'accord, ouais. Moi j'ai plus de réserves sur le match. Alors c'est pas catastrophique, loin de là, c'est plutôt un bon match, c'est sûr. Mais alors j'ai vraiment déjà un problème avec le début du match que j'ai trouvé horrible entre Sonya Deville et Bayley après l'intervention de Mandy Rose. Pour moi c'était vraiment pas agréable à regarder du tout. C'était trop approximatif. Bon après ça se comprend parfaitement parce que Sonya Deville et Mandy Rose, voilà, elles sont là depuis vraiment pas très longtemps. C'était un peu beaucoup leur demander que de sortir quelque chose de vraiment éclatant pour cette Elimination Chamber. Moi j'étais vraiment j'ai poussé un grand soupir de soulagement quand Sasha Banks est arrivée dans le match parce qu'à partir de là c'est devenu vraiment vraiment spectaculaire.
Ouais mais c'est devenu moins violent. C'est ça que je après peut-être que oui c'est pas démonstratif mais moi j'ai bien aimé ce que faisait Sonya Deville au début, bon, et Mandy Rose aussi, dans le sens où c'était juste de la torture sur la grille, etc. Alors, bon, peut-être il y a des gens qui aiment moins, mais voilà, il y a eu tout ce passage-là, et finalement, c'était le seul passage qui était vraiment relié à l'ambiance de Elimination Chamber, tu vois, la torture et la souplesse sur la grille, tu vois, les
oui, l'utilisation de la grille, oui, voilà. Jusqu'à ce qu'au moment où elle crucifie Bayley, hein, ça c'était plutôt pas mal, effectivement, mais tout le déroulé, moi j'ai trouvé que c'était vraiment c'était hasardeux, on va dire, et pas vraiment pas agréable.
D'accord.
Ça a tellement élevé le niveau quand Sasha Banks est arrivé dans le jeu. La trahison de Bayley, alors c'est une super image, la trahison de Sasha, pardon, c'est une superbe image visuellement. J'ai sauté de mon siège quand c'est arrivé. Mais par contre derrière Bayley elle se relève quoi une dizaine de secondes après pour aller attaquer Sasha. Y a un problème de selling à ce niveau. Y a un problème de selling aussi sur le Twisted Bliss qui est fait quand même du haut de la cellule que Sasha Banks vend pas du tout. Je vois la pertinence du contre etc, mais concrètement, elle se fait sauter dessus du haut de la cage. Donc, il y a un petit selling à faire. Et pareil sur Bliss, à la fin du match, quand elle fait sa promo, elle est trop pimpante, elle est trop fraîche. Elle aurait dû vendre un peu plus le fait d'avoir subi la chambre d'élimination quand même. Je trouve que là-dessus, ça a un peu terni l'image de la chambre qui est censée être le match le plus violent de la WWE. C'est du détail, mais
après elle est devenue light là.
Grâce à tes dents.
Après aussi ouais ça il y a deux trucs je pense, c'est la durée de leur match et le nombre de choses qu'elles voulaient faire dans leur match qui est trop important peut-être pas pour la durée, c'est-à-dire que Elles avaient toutes des choses à faire, même si toi, t'as pas aimé, par exemple, le début du match. Il n'y a pas un moment du match où... Attends. Oh là, j'ai eu un micro-freeze. D'accord, c'est bon. Il n'y a pas un moment du match où j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui foutait rien. C'était genre ça, tout le monde était
Oui,
à
c'est des
fin.
détails de booking, hein,
Voilà.
effectivement,
Et
hein, il y a eu un
donc
déroulé, c'était
finalement.
complet, il n'y a pas eu de temps mort. Hein.
Mais donc finalement, il n'y a pas de temps mort. Contrairement justement au match des mecs, où là, pour le coup, il y a des mecs qui sont au sol, il y a du sailing, etc. Mais les mecs ont plus de temps. Enfin bon, ils sont plus nombreux aussi. Mais donc oui, peut-être que finalement, elles ont voulu en faire beaucoup. Enfin, c'est pas elles qui écrivent le déroulé du match, mais on a voulu leur en faire beaucoup dans un temps réduit à 100 à l'heure. Et du coup, bah, c'est sûr que la fin aurait pu être beaucoup plus dramatique et beaucoup plus qui est
Ouais,
plus
alors
de
le TDT
suspense.
du haut du coin du ring, je t'en relève pas généralement, mais
Ouais.
voilà, c'est sur l'imagerie de la chambre, le fait de faire comme ça une petite promo après match qui a duré quand même un bon moment et où elle était vraiment, elle avait pas de bleu, elle avait rien quoi. On a l'impression qu'elle avait même pas transpiré quoi. C'est un peu léger pour le selling, mais bon, c'est vraiment là, on est sur des détails.
Et la chambre aussi est un peu version light maintenant parce qu'il y a même une protection sur la grille sur le côté du
Ouais,
ring quoi donc
bon, ça je pense qu'ils l'ont fait parce que c'était les
oui
fiches. J'ai
bah
pas
c'est
vérifié si l'année dernière c'était déjà le cas, mais je crois pas.
je non je pense pas c'est l'année dernière qu'ils ont changé la chambre ou il y a 2 ans?
C'est l'année dernière.
L'année dernière. Mais donc voilà, un peu plus light. Même le match des mecs, on parlera tout à l'heure, était pas non plus un sommet de violence, quoi.
C'est sûr. Voilà, donc bon, pas catastrophique. Toi, même, t'as plutôt adoré, on va dire. J'ai eu
Oui.
beaucoup de bonnes critiques hein, de ce match. Ça a plutôt rempli son job. Voilà, moi,
Peut-être que
j'ai aimé.
voilà, j'en attendais un bon match plus qu'un. Enfin, j'en attendais. Je partais peut-être pas avec autant d'attentes que toi vis-à-vis de justement de la enfin de la stipulation, enfin la cage, etc. Et voilà. Après, comme j'ai dit, c'est pas un match qui va rester dans l'histoire non plus. Mais j'ai passé un vraiment bon moment et voilà. Et un pay-per-view qui est plein de mo qui est, enfin qui est plein de moments comme ça. Qui va être plein de moments comme ça où tu verras, mais je suis pas j'arrive pas à être trop négatif en fait sur les matchs de ce pay-per-view, bizarrement.
D'accord. Bon, alors, justement, la suite des matchs. C'est le championnat tag team Titus Worldwide, hein, donc Apollo et Titus O'Neil contre Cesaro et Sheamus. Bon, il n'y a pas grand-chose de spécial dans le match de différent de ce qu'on a déjà vu dans les weeklies. Il y a la sortie de la balle, le ballon de plage hein, au niveau du public qui a un peu sorti le public du match. Donc en gros, Apollo fait des dives, hein, il fait des flips, etc. Titus O'Neil, il fait ce qu'il peut. Et au final, victoire de Cesaro et Sheamus sur White Noise. Pas catastrophique non plus ce
Ouais,
match,
et de
plutôt
justesse hein, la
allez.
victoire, hein. C'était quand même à l'arraché un petit peu.
C'était serré ce qu'il faut, oui, quand même. C'est pas un squash de The Bar.
Et puis ça s'est bien accéléré à la fin. Apollo Crews, il nous a encore sacrifié son corps 2 3 fois là, et sauté, je sais pas, sauté 2 fois à l'extérieur.
Oui.
Donc ouais, il a donné du sien. Le hot tag de Titus habituel. Bon, c'est beaucoup moins, c'est quand même beaucoup moins excitant quand même les passages moins intéressants du match, c'est dès que Titus est dans le ring, hein, ça
Ouais, c'est
c'est
le
dur.
handicap.
C'est dur parce que, bon, en fait, Titus, il a le catch de Nia Jax quand elle est arrivée à la WWE, c'est-à-dire, j'arrive, je te tire les cheveux, je te balance, je te mets dans le coin, je fais des coups de coude, ensuite je te rebalance,
Oui, voilà.
ouais, voilà, ça c'est du catch de rookie, quoi, donc bon, enfin, Monster Rookie, mais à part ça, j'ai trouvé que le match était agréable, voilà, il n'y a pas eu une mauvaise surprise. Parce que, sinon, on est quand même réchappé, on ne sait jamais. Hein, des moments, ils ont des décisions de fou. Hein. Souvenez-vous de Jinder Mahal. Et donc, du coup. Du coup, voilà, Titus, pas champion à Mania.
Voilà. Titus, il
Mais
a quand
bon.
même payé le ciné à 2000 gosses hein, pour avoir la place de... pour le droit d'avoir un title shot tag team.
Ah ouais.
Il y a eu une petite pub pour lui là avant, il... parce qu'il est beaucoup dans les œuvres de charité, etc.
Non, mais tant mieux, voilà, tant mieux pour lui, mais non, voilà, correct le match, correct.
Voilà.
C'était pas l'ennui intersidéral dont justement j'entends parler dans les podcasts où on est limite en train de justifier le public un petit peu belliqueux de la soirée, mais on va en parler dans le match
Ouais, le public était
d'après.
zéro.
Ouais,
Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre sur ce match-là, j'ai pas rien de
vas-y.
spécial à dire. Asuka affronte Nia Jax. Asuka toujours invaincue à la WWE depuis plus de 800 matchs. Nia Jax, et ben, si elle gagne, elle intègre le championnat de féminin à WrestleMania et ça devient un triple threat.
En effet.
Donc, bah, toute la puissance hein, de Nia Jax contre Asuka. Qui va tenter ses clés de bras, ses coups de pied dans la face, mais Nia Jax, elle est vraiment très en force ce soir. Asuka va devoir la piéger dans un espèce de Hurricane Rana roll-up dont Nia Jax n'arrivera pas à s'échapper. Victoire d'Asuka, évidemment.
Oula, il m'a fait peur.
Mais à la fin du match, Nia Jax, enfin du moins après la victoire, elle vient attaquer Asuka et elle va aller même l'exploser dans la barrière à travers la Timekeeper Arena. On va devoir quasiment sortir Asuka en civière, mais bon, pas jusque-là. Hein, ils vont là. Elle sera aidée pour être sortie. Et petite promo d'Alexa Bliss là-dessus, qui se moque d'Asuka, en déclarant que personne n'est prêt pour Alexa Bliss. Voilà, donc Nia Jax, mauvaise perdante, après un match qui était quand même vraiment pas mal. Hein.
Un match qui était étonnamment bon pour moi parce que je m'attendais pas enfin je les avais elles s'étaient déjà croisées quelques fois
Ah, NXT, surtout,
à
elle avait fait un match
NXT
petit.
et elle avait je crois que tu avais souligné aussi que Asuka avait déjà battu Nia Jax en 1 contre 1 à Raw.
Pas à
Non, c'était pas à
Raw, mais
Raw.
c'est
Ah
à
d'accord.
NXT, je crois.
Je croyais que c'était à Raw. Mais
Ou
donc,
peut-être.
oui, le match était cool. Asuka a vachement bien scellé tout le match, j'ai trouvé. La fin, rien que la fin du match, en fait, elle se relève pas en gagnante, etc. Elle a du mal à se relever, elle est assommée, hein.
Exactement.
Elle gagne d'un poil avec un roll-up. Donc vraiment bien
Ah, c'est là
joué.
qu'on voit qu'elle est vraiment talentueuse, Asuka, hein, parce que sur des détails comme ça, effectivement, elle est au rendez-vous, hein.
Ouais, non, mais j'ai jamais vu
Elle
avec
le
cette
vend bien, là.
expression-là à la fin du match. D'habitude, elle est tout le temps souriante, etc. Là, elle était un peu choquée. J'ai du mal à comprendre. Après, c'était un super moment parce que j'aime bien ces spots-là. Enfin, je me lasserai jamais de gens qui se font défoncer dans une barrière.
Oui. Après, il faut
Mais
voir ça.
j'ai du mal quand même à comprendre ce spot et le spot de la fin du pay-per-view vis-à-vis du de pourquoi la WWE enfin pourquoi ils écrivent ça en fait que pourquoi est-ce qu'ils veulent nous laisser un faux espoir de quelque chose ou alors est-ce que c'est juste gratuit genre c'est mathématiquement c'est ah et au fait tu fais ça après le match comme ça tu gardes ta hit tu gardes ton truc et puis on s'en fout du résultat alors que du coup c'est pas bon il faut prendre au bout d'un moment il faut prendre une décision ça veut pas. Si quelqu'un perd un match, ça veut pas dire directement oh mon Dieu, il est nul. Si le match était bon, le match était bon. Il n'y a pas besoin que juste après il y ait la revanche. Voilà, donc c'est bizarre. ce truc avec Nia Jax et
et c'est un peu bizarre d'envoyer quelqu'un que tu veux protéger face à ta prochaine top star qui est en route pour WrestleMania et qui est pas censé perdre quoi. Si tu veux protéger Nia Jax, effectivement fallait pas l'envoyer contre Asuka, hein. Ça c'est un peu bizarre effectivement, ouais.
Oui, faut juste en rester au résultat. Elle avait un bon match, Nia Jax. Il n'y avait pas besoin de. Voilà, il n'y avait pas besoin de plus que ça. Bon, défoncer dans les barrières, là, c'était un peu. C'est un peu la goutte d'eau. Mais bon. Bon match.
Bon match, voilà, excellent match. La suite, Woken Matt Hardy affronte Bray Wyatt. Le public boude complètement le match, hein,
sauf quand Matt de plage sauf quand Matt les fait applaudir.
Pardon ?
Sauf quand Matt les fait applaudir ou quand il fait des conneries. En fait, quand ils catchent pas, ils font attention.
C'est ça. Alors, d'abord, il y a une arrivée de Bray Wyatt qui se téléporte, hein, dans le ring. Mais Matt Hardy a déjà disparu, hein, parce que Matt Hardy était le premier arrivé dans le ring. Donc après, Bray Wyatt, il va chercher.
Où est Charlie ?
Voilà, où est Charlie ? Où est passé Matt Hardy ? On pense que ça va peut-être partir dans un délire façon Final Deletion. Mais non, hein, Matt Hardy réapparaît sur l'escalier de fer. À un moment donné, il saute sur Bray Wyatt. Alors, comme les gens chantent Rusev Day, jouent à la balle, Bray Wyatt, il arrête un petit peu de catcher. Il fait un gros spot sur le tablier du ring, mais vraiment sans conviction. Et puis tout ça se termine par une victoire de Matt Hardy sur un Twist of Fate. Voilà, bien triste match, bien triste rivalité. Qu'est-ce que t'as envie de dire là-dessus?
Moi, j'ai apprécié le début du match en fait. Je me suis dit, même après cette espèce de mise en scène un peu foireuse. Avec Matt qui disparaît, le moment où Matt Hardy a commencé à faire des conneries sur le poteau et tout, et je me suis dit, ah, tiens, ils vont en faire ils vont faire une espèce de match un peu théâtral, un peu connerie, genre le moment où il nocelle l'araignée de Wyatt, tu vois, il fait bravo. Putain, tu veux te faire enterrer un peu plus, bref. Mais voilà, j'ai ri quand même quelques fois au début du match. Et après, c'est le plus, je dirais plus que les deux dans le ring, c'est le public qui a juste complètement pourri ce match.
Moi j'ai vraiment senti que Bray Wyatt il était vexé et qu'il avait plus rien envie de foutre derrière.
Mais il a raison.
Moi je pense qu'il a raison, je suis assez de son côté. Après c'est difficile parce que t'as d'un côté bien fait pour la gueule du public s'il n'y a plus de spectacle, ouais. Mais par contre il y a les gens devant leur télé, ça c'est un peu télé. Con quand même.
Oui, non, c'est sûr,
mais je comprends parfaitement sa réaction. Moi.
C'est juste des connards quoi. Si vous regardez ce podcast, si vous allez à un show de catch, je vous jure,
voilà, jouez pas à la balle de plage.
Ne chantez pas Beach Ball Mania ou je ne sais quelle merde. Ne chantez pas genre Rusev Day quand il y a pas Rusev dans le ring ou d'autres conneries comme ça. C'est non seulement c'est pas drôle et en plus c'est insultant. Vis-à-vis des catcheurs qui sont dans le ring.
Quand bien même, on en a rien à foutre de Bray Wyatt, mais quand même.
Oui, non, mais peu importe. Ce serait, je sais pas. Alors, je vais sortir qui c'est dont j'ai rien à foutre. Apollo Crews en match 1 contre 1 contre Kurt Hawkins. Même ça, tu vois, je me permettrais pas de sortir un chant de merde. Parce que les mecs, ils bossent dans le ring, ils bossent au milieu du ring pour vous, quoi. Ils sont pas là, c'est pas gratuit. Donc voilà, ça m'a saoulé. Puis alors, quand j'ai reconnu le Rusev Day, là, j'ai fait, mais rentrez chez vous. Alors, dans l'intro, c'est genre, salut les smarts, salut les marques. Mais alors là, c'était les pires smarts du monde, quoi. C'était les smarts idiots, quoi. Donc ouais, ça m'a saoulé. J'ai trouvé ça dommage. De toute façon, cette rivalité, c'est déjà dommage parce que c'est écrit, c'est pas écrit, hein. Ils écrivent rien et il se passe rien dans cette rivalité. Donc j'espère que ces enregistrements, ces comment, ces vidéos enregistrées à l'avance dans un environnement, je sais pas, une forêt ou chez Matardi ou machin, que ça va arriver très vite et que on ait un petit peu de grain à moudre. Donc voilà, je suis. C'est dommage pour eux. J'ai pas envie de critiquer le match parce que c'est juste le public là.
Ouais.
La pourrie.
Il n'y aurait pas de raison qu'il se casse la nénette, effectivement. Je voudrais pas de spoiler, mais effectivement, la rivalité continue. Hein.
Mais j'ai vu, je sais ce qui se passe à Raw. J'ai pas regardé Raw en entier, mais d'accord. Je sais ce qui se passe.
Alors, passons à un événement historique. Ronda Rousey qui débarque, qui vient signer son contrat pour Raw. Elle est accueillie par le General Manager Kurt Angle, qui est déjà au milieu du ring, mais surtout par Stephanie McMahon, le Commissioner, et le COO de la WWE, Triple H. Donc les deux arrivent, hein, ils s'auto-congratulent l'un l'autre, hein, ils sont très contents, grand sourire. Ça discute, hein. Triple H est très content de l'avoir, mais il explique que quand même, attention, Ronda, avant de signer le contrat, moi je veux savoir si tu n'es pas venu là pour avoir un traitement spécial, enfin s'il n'y a pas de traitement spécial que tu veux, hein, tu vas être traité comme tout le monde. Ronda, elle confirme, ah oui, moi je viens là, mais par contre, je veux ma place à WrestleMania. Triple H lui confirme qu'elle aura bien sa place. C'est parti pour signer, mais là il y a un petit peu de mouvement du côté de Kurt Angle qui intrigue Ronda et qui va lui demander, Kurt, qu'est-ce qu'il y a, t'as quelque chose à dire? Kurt Angle explique je vois que Triple H a réussi son coup puisque ça fait 3 ans qu'ils veulent t'avoir suite au fait que tu les as humiliés à WrestleMania. Alors bon, Triple H essaie de calmer le jeu, il dit non mais Kurt Angle il a eu la grippe là cette semaine, il raconte un petit peu n'importe quoi. Mais Kurt Angle il dit mais tu m'as pas dit dans les vestiaires là, après 3 ans ça y est c'est conclu, on l'a déjà cette salope, et puis on le coupe, hein. Là-dessus Triple H raccompagne Kurt Angle à la sortie. Stéphanie va essayer de faire signer rapidement Ronda, Kurt Angle reprend le micro une dernière fois et il interpelle Stéphanie. Il lui dit tu vas pas lui répéter ce que tu m'as dit dans les coulisses, que c'était une has-been Ronda et que même toi tu pouvais t'en occuper dans le ring. Stéphanie est outrée. Là-dessus Triple H débarque, il va essayer de calmer Ronda. Il se fait passer à travers la table, surprise générale. Stephanie McMahon va mettre une claque à Ronda et Ronda va quand même signer le contrat. Stéphanie sera partie quand elle a vu qu'elle a fait une bêtise, hein, parce que le public lui a dit you fucked up après qu'elle ait mis une claque. Donc Ronda Rousey a perdu son sourire, elle est vénère grave, elle a déjà explosé Triple H à travers la table. La rivalité visiblement est lancée avec Stephanie McMahon. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment là?
Alors ça a débuté avec une grande frayeur, je pense, pour tout le monde, parce que Ronda on lui a pas expliqué qu'il fallait parler fort dans un micro. Donc en fait elle sortait des phrases assez longues et un peu genre comme si je parlais comme ça, tu vois, genre bon alors je suis très content d'être là, j'aime bien la WWE et
c'est un rêve devenu réalité.
Oui, donc du coup et puis je connais la famille de Roddy Piper, donc j'aimerais leur payer mes respects. donc au début on fait Ronda plus fort. Hein, plus
Ronda Rousey, bisounours.
Plus de conviction. Et puis voilà, une fois que l'intrigue était lancée, j'ai pissé de rire. Hein. Kurt Angle, mais ça sortait de nulle part. C'est ça qui était drôle parce que, en fait, au final, le résultat de la séquence, c'est que c'était un vraiment bon moment, mais quand même, il joue mal et bien en même temps, Kurt Angle. C'est-à-dire qu'il sort ses trucs, genre. Que gratuitement comme ça il fait ah oh, si je lançais une phrase de pute mais t'as pas dit que c'était une connasse. Le footeur de merde absolu sans tout au premier degré. Donc Donc voilà, c'était un peu enfantin et en même temps, voilà, ça marchait bien parce que dès qu'on est dans des rivalités contre l'autorité, il faut que ça soit un peu grotesque, il faut que ça soit un peu enfantin. Ça a très bien marché. Le public, je pense, n'était pas forcément. Était un petit peu partagé à l'arrivée de Ronda Rousey. Il y avait beaucoup de bruit, mais on ne savait pas si c'était positif ou négatif. À part les premiers rangs, hein, on nous filmait les premiers rangs, les mecs étaient à fond. Et au final, voilà, au final, le spot, enfin, je veux dire, quand il met Triple H dans la table, voilà, c'est ça qui.
Ouais.
C'est comme ça que t'arrives à avoir le public dans ta poche. Triple H qui avait apparemment une petite capsule de sang parce que après il a fait genre la bouche ensanglantée alors qu'elle l'a pris par la gorge, il est tombé sur une table, enfin ça n'a aucun sens. Donc voilà, j'étais étonné, hein, moi je m'attendais pas à un truc aussi divertissant. C'était très bien. En plus, là, on est parti donc du coup avec Angle, donc, pas de risque de. On en parlait dans le pré-show de Strowman
Ouais.
ou d'autres choses. Voilà, ça me va très bien que si c'est avec Kurt Angle. Enfin, si on imagine un tag team, hein, peut-être un contre un contre Stéphanie, mais j'imagine plus en tag team l'histoire de moins mettre Ronda dans le risque, enfin dans risque de l'erreur. Voilà, donc très bien, très très bien ce
Ouais,
combat.
voilà, l'intégration du personnage, les guides de Ronda Rousey dans le monde de la WWE, apparemment elle sera plutôt un personnage féminin, la version féminine de Stone Cold. Elle est en tout cas vachement crédible quand elle tire la gueule. Et je pense qu'on la verra plus venir faire des promos cucu la praline comme elle a pu faire là au début. Je pense que visiblement ils ont réfléchi à ce qu'ils allaient faire et c'est pas plus mal. Et effectivement, Kurt Angle dans le quatuor, c'est ce qu'il faut, pas la peine de mettre un jeune pour ce qui se passera à Mania. Donc voilà, plutôt réussi hein, cette séquence. Et puis on a eu une belle frayeur, effectivement, au début, on est content que ça se retourne comme ça à la fin.
Ça va
Puis
bien avec
apparemment.
le. Non, mais j'allais dire, ça va bien avec aussi, si on veut aller rattacher à l'embrouille entre Angle et Triple H à Survivor Series.
C'est ça, ouais. Il y a de la cohérence, c'est pas mal, oui, parce que je pense qu'il avait sa petite idée derrière la tête quand même, Kurt Angle, on l'apprendra sûrement plus tard, tout ça. Voilà, passons au main event, la chambre d'élimination pour les hommes. Alors on est à 7, première fois que c'est une chambre d'élimination à 7 personnes, ça commence sur un triple threat. Les participants, donc The Miz, Seth Rollins, Finn Balor, John Cena, Braun Strowman, Elias. Je crois que j'ai oublié personne. On démarre avec le Miz, Seth Rollins et Finn Balor. Donc ça va se foutre sur la gueule joyeusement. John Cena arrive en quatrième du coup. Il y a une petite confrontation face à face entre Seth Rollins et Cena quand Cena débarque parce que Seth Rollins c'est le seul debout à ce moment-là. John Cena rigole au nez de Seth Rollins,
Alors
mais
qu'il
sur
s'est
le
fait
top.
battre sèchement 4 jours avant.
Ouais, j'ai pas trop compris où il voulait en venir, John Cena, mais il a peut-être pas envie de tout de suite transpirer. Hein, une petite séquence de non-catch, c'est bien aussi, d'anti-catch. Et finalement, bah, c'est Braun Strowman qui rentre dans le match. Il va défoncer tout le monde. Tout le monde va se mettre sur lui. Il va encaisser les finishers de la totalité de ses adversaires. Mais il survivra, pas un problème. Il va finir par faire un running power slam sur le Miz hein, après avoir mis tout le monde à terre. Il va d'abord un petit peu interloquer le dernier qui reste dans son pod, Elias, et puis il va se rappeler qu'il a des adversaires, donc il va choper le Miz, faire un running power slam et éliminer le Miz, qui sera donc le premier éliminé. Ensuite, Elias rentre dans la partie. Bah, il va faire un peu le coup de poing.
Il essaie de faire un tombé sur tout le monde, hein, parce que tout le monde est à
Ah
terre à
oui,
ce
c'est
moment-là.
vrai, tout le monde est à terre à ce moment-là.
Ça marche pas.
Ça marche pas, non, c'est loupé. Et puis il va finir par se faire éliminer par Strowman. Donc il reste Cena, Balor et Rollins qui continuent à essayer de mettre à terre le géant Strowman. Ben, Strowman va réussir à placer un Power Slam sur Cena. Je crois qu'ensuite c'est Finn Balor qui doit se faire éliminer. Ouais. Malgré un beau retour de Finn Balor, hein, il est ouais, en plein rush.
Parce qu'à la fin, on se retrouve avec Rollins Reigns.
C'est ça. Mais il va se faire cueillir Baylor par Strowman, Power Slam, Running Power Slam. C'est Rollins, même motif, même punition. Et il ne reste plus que Strowman face à Roman Reigns. Donc ça se fout sur la gueule encore joyeusement. Strowman réussit quand même à survivre à un spear. Il arrive à survivre au Superman Punch, à tout ce qu'on lui envoie. Mais finalement, Roman Reigns réussira à le cueillir avec un enchaînement de deux spears. Mm-hmm. Et Strowman ne se relèvera pas. C'est Roman Reigns qui part à WrestleMania affronter Brock Lesnar. Après le match, Strowman attrapera Roman Reigns et l'explosera à travers une des cellules, à travers le plexiglas, et il s'en va. Voilà, Roman Reigns n'aura pas pu savourer sa victoire, il se sera fait exploser. Le pay-per-view se termine donc sur Roman Reigns explosé à travers le pod. Voilà, donc gros match blockbuster, ça a explosé dans tous les coins. Est-ce que tu as été convaincu?
Ouais. Le match était très bon, je trouve. Enfin, vraiment, j'ai peut-être eu quelques moments où j'étais un peu moins dedans, mais franchement, la majorité du match quand même, il y a eu le Miz pour nous divertir quand même pas mal, hein, au début. Ouais. Il a fait sa séquence de hit kick. Ce moment où tout le monde est à terre et justement c'est juste avant la séquence de hit kick, je crois, où du coup j'ai cru au début que c'était un truc justement pour référence à Balor, en fait, parce qu'il faisait le signe du flingue pour montrer, ouais, chaque personne et attendre la réaction du public. Bien sûr, c'était quand Roman Reigns était montré que le public était oh vas-y nique-le. Donc voilà, et pour frustrer,
et puis aussi quand il est arrivé au début, il a nargué un peu tout le monde,
voilà, il a fait le tout
suite, était enfermé dans les ouais, le tout suite, il a nargué un peu tous ceux qui étaient enfermés dans les cages quand il est arrivé à Braun Strowman a un peu tapé la cage, il a tout de suite frayeur, reculé, c'est rigolo.
Oui, il a fait le gimmick de chaque mec, il a fait ça devant Cena, il a fait le coup du poing devant Reigns, même une fausse guitare devant Elias. Non mais voilà, il était excellent.
C'est taf, hein.
J'ai trouvé Balor bien explosif et tout, il était impeccable.
Ouais, la dernière séquence de Balor avant qu'il se fasse éliminer, il était au top, ouais.
Qui on a d'autres? Elias, il a pas foutu grand chose, hein, mais bon, il a joué un petit peu le rôle du Miz il y a quelques années, en fait, finalement.
Ouais.
C'est-à-dire que il catch pas, il vient faire, enfin il catch pas, il catch très peu, et puis sinon voilà, il vient faire le filou, les tombées en douce. Et puis Rollins a encore fait le showman, finalement. Ouais. J'ai peur, j'espère que Rollins, il le considère mieux que... Enfin, ils vont mieux le considérer que Ziggler, parce que j'ai tellement l'impression que Rollins il devient de plus en plus comme Ziggler. C'est-à-dire que le mec, même quand il n'est pas dans le spot, même quand il sait qu'il n'aura pas la ceinture ou il n'est pas proche de la ceinture, il va quand même essayer de donner le meilleur match de sa vie. Bon, c'était pas le meilleur match de sa vie, mais ce que je veux dire, c'est quand même Rollins, c'est le mec qui a fait le frog splash sautant du pod. C'est le spot le plus, entre guillemets, dangereux du match.
Un des piliers du match, on va dire, Rollins, qui a fait quand même un peu le plus gros du spectacle aussi, hein, en côté catch pur, on va dire.
Et puis, tension est quand même retombée, ouais, quand c'était Reigns Strowman, là, c'était bon, c'est inéluctable, quoi.
Il y a eu assez de comptes de deux quand même, où on pensait que c'est fini pour Strowman et qu'il s'est relevé. Je trouve que ça commençait à envoyer du suspense un petit peu, mais bon. Mais ça, c'est un peu un coup d'épée.
Ouais, quand c'est surtout, en fait, il y avait du suspense jusqu'à ce que ça arrive soit un contre un, où là je me suis dit bon, c'est bon, c'est Reigns qui va gagner. Et puis Le souci du match qui est relevé aussi dans d'autres podcasts, qui n'est pas vraiment un souci de la qualité du match, mais de l'objectif du match, c'est qu'à la fin de ce match, celui qui ressort grandi, c'est Braun Strowman, c'est pas du tout Roman Reigns.
Ouais, c'est délicat Roman Reigns.
Le mec qui a dominé ce match, qui a démontré sa comment, le fait qu'il soit meilleur que tout le monde, c'est Braun Strowman, c'est pas Roman Reigns. Roman Reigns, il s'est bougé le cul dans les 5 dernières minutes, il a balancé je sais pas combien de Superman Punch, de Spear, sinon le reste du temps, il a pas fait grand chose, il est arrivé au 3 quarts du match. Donc voilà, j'ai blagué
Strowman
un petit peu.
Strowman qui a survécu à tous les finishers
d'affilée. Oui, voilà, il s'est pris tous les finishers, il a pris combien, 3 Spears. Donc... Et je blaguais pendant le pré-show sur le fait que Reigns il sera pas au début, attends, il fait pas ce genre de match en entier. C'est exactement ça. Là on était exactement là-dedans, c'est-à-dire que même quand il est arrivé, il a pas fait grand-chose jusqu'au 1 contre 1. Il y a eu cette miette de tension avec Rollins, mais pas vraiment, enfin on sait qu'il se chamaille, ça mène pas à grand chose. Puis bon, là la route est toute tracée. Après il y a le lendemain, mais ça bon on en parlera, enfin je sais pas si je ferai la review d'Euro, mais le lendemain ils sont quand même assez rattrapés là-dessus avec Reigns, un très bon passage dans Raw. Si vous ne l'avez pas encore vu, voilà.
Oui, il y a un plan derrière, hein, mais c'est vrai que c'était tellement prévisible que c'est difficile d'être enthousiasmé par la fin du match.
Et c'est le gros reproche du pay-per-view en général, quoi.
Voilà, pour ce pay-per-view-là, effectivement. C'est peut-être un peu le problème d'avoir l'Elimination Chamber juste avant WrestleMania. Il serait peut-être judicieux de le placer autre part. Parce qu'on sait toujours à peu près qui va gagner. Mais bon, reste que c'était joliment exécuté. Après, encore une fois, il y a tellement de talent dans les 7 personnes qui étaient là.
On n'a pas parlé de la chanson d'Ilias juste au début où il dit à Vegas Je suis dans un décor spécial ce soir, mais en même temps, je sais que vous êtes tous habitués à voir vos amis derrière des barreaux.
Ouais, alors là-dessus, il est toujours impeccable.
Allez, il est balancé 2-3 vannes qui étaient excellentes avant le match. Ilias, je t'adore.
Cena, un peu transparent peut-être, mais.
Oui, Cena, ouais, mais Cena. Cena, il a eu le droit à une bonne minute de caméra une fois qu'il était éliminé. Comme ça. Voilà. En train de réfléchir à l'avenir. J'ai plus de route jusqu'à Mania.
Il est passé à Rotalk aussi après pour nous expliquer qu'il va trouver une solution. Il a un plan.
Il a fait toute cette discussion genre comment je vais faire, et au bout de 2 minutes de promo il a fait j'ai peut-être un plan, et là il s'en va. C'est un cliffhanger. Donc voilà la suite des aventures de Cena à Raw et autre part peut-être.
On a fait le tour. C'est l'heure du mot de la fin. Donc le top, le flop, la note, nous t'écoutons.
Le top, à qui que je vais donner le top? Je vais quand même donner le top aux filles, même si t'as eu beaucoup de réserves sur le match, mais je trouve qu'elles sont débrouillées. C'est vrai qu'au niveau du rythme c'était pas parfait, parce que du coup le rythme fait que le selling était pas vraiment là, moi dans le feu de l'action je l'ai moins vu, mais donc voilà, je trouvais qu'elles avaient fait le taf, et puis Alexa Bliss en ressort grandi, donc je trouve que l'objectif est réussi. Je ne sais pas si c'est atteint, voilà, atteint. L'objectif est atteint. Et donc du coup, le flop, c'est le public.
Allez, un flop au public, c'est mérité.
Flop du public parce que j'aurais pu mettre Bray, voilà, Bray Matt, mais en fait, c'est pas vraiment Bray Matt, c'est juste ce public de merde. J'espère qu'il y aura pas ça à Mania. J'imagine qu'il y aura forcément une Beach Ball à Mania, mais bon, pénible, c'est pénible le public. Et ma note, c'était voilà. Pay-per-view prévisible, match plutôt de qualité sur le long, donc un 3.
3. 3, je te suis. 3. Je vais mettre le top à la trahison de Sasha Banks, le coup de pied en particulier sur la tête de Bayley, qui était vraiment spectaculaire, qui m'a fait bondir de mon siège. Le flop, je vais le mettre à Bayley qui se relève à peu près plus tard.
Le top et le flop, voilà.
Dans
la
même séquence.
Dans un mouchoir de poche.
C'est fou, hein, le catch. Et puis donc 3, hein, effectivement, prévisible, mais plutôt bien exécuté. Il y avait quand même des matchs qui étaient assez dispensables. Mais c'était bien fait. Et merde à ce public. Voilà, bah on a fait le tour. Je vous rappelle qu'on est dispo sur YouTube, donc c'est YouTube/CatchUpCDC, si je ne dis pas de bêtises. On est sur iTunes, on est sur PodCloud,
voilà.
On est sur Facebook/CatchUpCDC, Twitter/CatchUpCDC.
.com,
.com derrière.
C'est pareil.
Oui. Hank.
Oui.
Merci beaucoup.
Et ben, on s'en est sorti. C'était une galère incroyable. Juste pour l'anecdote, donc du coup, mon PC s'est mis à jour un quart d'heure avant le début normal du podcast. Une mise à jour qui est devenue infinie. Donc on en a un peu chié pour lancer
Microsoft
le podcast. Voilà. Merci Windows 10. Vous déteste. Et merci à tous les gens qui ont regardé quand même le podcast et qui nous ont attendus. Puis merci à tous ceux qui regardent en décalé. N'oubliez pas, lâchez vos commentaires, mettez un petit like et
puis abonnez-vous.
Abonnez-vous, ouais.
Voilà. Hein, si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que c'est gratuit pour l'instant.
Pour l'instant.
qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors Catch Up Pro, hein, dans la semaine.
Ça va se passer.
le supplément SmackDown. Si Hank est toujours en vie, bah, dimanche 14h, c'est Next tout seul.
Et oui, comme d'hab.
Et voilà, et puis c'est déjà suffisant. Hein.
Ouais, le premier tour de Dusty Classic, il me semble. Si je me gourre pas.
Le premier Dusty Road Classic, du moins le premier, comment on appelle ça ?
Tour.
Le premier tour, voilà. J'attends ça avec impatience, personnellement. Voilà, bah merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.